Le moment important des JCO, je le disais tout à l'heure, c'est le débat public, c'est le principe même des JCO. Donc voilà, le moment attendu, c'est vous maintenant qui devez prendre la parole, hein, vous lancez un petit peu, lancez à l'eau et poser des questions. Voilà, c'est très bien. La première, c'est la plus difficile, là, on est aidé. Allez-y.
Bonjour à tous, je suis Clément Viaouette. Moi, la question qui m'intéresse, c'est quand on est une très grande entreprise, qu'on a des moyens pour innover, on a entre guillemets la possibilité de pouvoir se tromper. Parce qu'on a du cash, parce qu'on a un BFR qui tourne, et à l'inverse, quand on est un créateur d'entreprise, qu'on n'a pas forcément de fonds, qu'il faut les lever, je dirais, on a moins le droit de se tromper. Et donc, il faut être peut-être plus visionnaire ou plus osé. Comment vous faites, vous? Parce que naturellement, on a toujours en tête des chiffres pas toujours très reluisants, en l'occurrence. À 5 ans, les jeunes entrepreneurs, il y en a, si je ne me trompe pas, la moitié qui ont mis la clé sous la porte.
Alors, bon, je pense que la question est assez claire, hein, je ne vais pas la paraphraser. Merci de votre question. Eh bien, écoutez, je vous propose d'y répondre. Comment vous avez fait pour survivre? Déjà, c'est une première chose.
Bon, je vais me lancer sur cette première réponse. Alors c'est vrai, comme vous le dites très bien, les grands groupes ont des moyens pour innover. Est-ce qu'elles le font et comment elles le font, c'est une question, mais je pense que les petites structures ou les petites start-up qu'on représente sont un moyen pour elles aussi de le faire. Parce que l'innovation, c'est pas, ça peut commencer dans un garage, comme on fait souvent, quand on pense souvent à cette image-là, ça commence par une rupture technologique, ça peut être ça. Mais ça doit vivre sa vie et son cycle. Donc le grand groupe doit pouvoir participer à un moment ou à un autre. Ce qu'il faut qu'on fasse, nous, en tant que petite structure, c'est évidemment bien circoncire ce qu'on développe, les compétences qu'on met en œuvre, et puis trouver les bons partenaires, parce que c'est là où je veux en venir, c'est qu'on innove jamais seul. Même si on a une petite société dans son coin, on cherche tout de suite à trouver les partenaires qui vont permettre de déployer la solution. Et donc notre objectif à nous, petite structure, c'est de travailler avec des grands ou des moins grands, mais qui vont nous permettre de la porter, cette innovation. Et puis après, il existe quand même aussi à notre disposition tout un ensemble de financements qui permettent, si ce n'est de pouvoir brûler du cash de façon infinie, d'avoir quand même sur plusieurs années, si le projet est solide, les moyens de développer notre stratégie. Donc voilà.
Guillaume, une réponse à cette question aussi, également.
Alors nous, enfin Antagène, la société Antagène a 8 ans, donc a priori on a passé le cap des 5 ans, mais je pense qu'il faut passer le cap des 1 an, des 2 ans, des 3 ans, des 4 ans, des 5 ans, etc. Quoi. Enfin, c'est perpétuel, donc on est dans des activités, je pense que ce soit la high-tech ou enfin, la biotech, dans des activités qu'on appelle capitalistiques, c'est-à-dire ça nécessite des moyens. Des moyens techniques. Nous, au laboratoire, on a des séquenceurs automatiques d'ADN, enfin, on a tout un tas d'équipements qui sont coûteux. Il y a des ressources humaines, enfin, il y a des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens qui travaillent pour développer les tests. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent et il faut effectivement trouver de l'argent pour pouvoir amorcer le système, commencer à commercialiser, enfin, à développer les premiers tests et les commercialiser. Donc au début, ça n'a pas été facile. Ça l'est peut-être un peu plus maintenant, mais bon. On ne peut pas vraiment dire que nous, enfin, dans notre domaine d'activité, on n'est pas vraiment porté par les grands groupes. On se débrouille, je dirais, un peu avec les moyens du bord. Et quand je disais, enfin voilà, c'est des caps perpétuels à passer, c'est-à-dire qu'il faut continuellement trouver des financements pour pouvoir continuer à se développer, continuer à innover. Si les produits qu'on propose ont la chance d'être bien perçu sur le marché, si on a des tests qui sont à des prix abordables, parce que ça c'est un autre point, l'évolution dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais quand on s'est créé nous au début, les tests qu'on vendait, il aurait fallu les vendre 300€ le test pour que ça soit rentable, et le prix psychologique à l'heure actuelle pour ce type de test, c'est plutôt 100€ maximum. Donc voilà comment on fait. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à une certaine taille critique, il faut avoir un volume de tests, il faut qu'il y ait un certain nombre d'utilisateurs qui trouvent l'intérêt à ces tests. Alors nous, on n'a aucun doute, parce qu'encore une fois, améliorer la santé de vos chiens et de vos chats, on pense que c'est capital. Mais voilà, il faut que ces innovations, elles arrivent sur le marché. Et ça, c'est évidemment très difficile. En plus, nous, on a un marché très atomisé, hein, parce qu'il y a énormément de vétérinaires, d'éleveurs, etc. Il y a peu d'intermédiaires. Donc voilà, c'est une conquête permanente.
Moi, je vais être plus généraliste. Il n'y a pas de recette. D'ailleurs, il n'y a pas de recette, ce qu'on a entendu. Hein. On se débrouille, il y a les grands groupes, il y a les autres. Il n'y a pas de recette, ça veut dire... On vous apprend, pour ceux qui sont encore étudiants ou pour les autres, on apprend que finalement l'économie c'est assez normé et paradoxalement l'entreprise ça l'est pas vraiment. Il y a des codes bien sûr, il y a des règles, on a des besoins de fonds de roulement, on a des cash flow, on a des trucs, des mots de plus de 5 lettres qu'on apprend à apprendre. Mais quand on dit le mot innovation, là vous avez parlé essentiellement d'innovation R&D high-tech. Qui nécessite du capital, ça peut être aussi de l'innovation beaucoup plus pas à pas, une amélioration à la marge. On a oublié que petit à petit, même dans un atelier de mécanique générale, on peut faire de l'innovation, on peut améliorer plein de petites choses qui font qu'on augmente sa productivité. Ça veut dire en français qu'on augmente sa marge de manœuvre de générer un peu plus d'argent pour faire autre chose. Puis après, il y a des opportunités, on peut tomber sur un contrat qui nous permet de faire une innovation. C'est une autre manière de faire de l'innovation. On se dit, tiens, s'il y a un contrat avec quelqu'un, ça va me permettre de me développer quelque chose que je vais réutiliser plus tard. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, mais ce que j'ai aussi entendu et qui est vachement important, c'est que quand on est une entreprise qui se veut innovante, le patron de l'entreprise, il doit savoir qu'il doit passer une partie très importante de son temps à trouver justement les moyens de cette innovation. Donc ce n'est pas simplement une entreprise innovante, c'est une entreprise qui fait un produit, puis qui le vend, puis qui va rester pérenne comme ça en prenant un produit en le vendant. Comme c'était un peu le cas des entreprises, j'allais dire du 20e siècle, mais traditionnelles. Mais c'est être aussi dans cette dynamique de rechercher ces solutions, au pluriel, recherche d'innovation. Maintenant, dernière remarque sur les grands groupes. Oui, ils ont des moyens, mais ils ont des moyens qui les sclérosent souvent. Et ils vont vraiment chercher de l'innovation dans les petites structures. Donc j'adhère complètement à ce qui a été dit avant sur le fait que oui, c'est s'exposer en termes de spécialité, en termes de spécialiste auprès de ces groupes, c'est une manière aussi de pouvoir financer sa recherche. Mais encore une fois, à mon avis, il n'y a pas de recette miracle. C'est pas « ah oui, il faut faire comme ça et ça marche ».
J'ai une question, là, voilà. Monsieur, prenez la parole.
Alors. Je ne me placerai pas sur le terrain de l'économie, même si c'est quelque chose de très important, mais dans les exemples que vous avez évoqués, qu'est-ce qui pourrait caractériser le fonctionnement de votre entreprise ? Alors, le chef d'entreprise, évidemment, il a un rôle important, mais qu'est-ce qui fait que, finalement, vos idées, je vais dire ça comme ça, se transforment en produits, au sens générique du terme ? Et qu'est-ce qui fait que, finalement, votre entreprise, les salariés de votre entreprise, l'organisation de votre entreprise contribue à cet objectif ? Ça, c'est ma... Est-ce qu'il y a des spécificités ? Autrement dit, est-ce que, dans votre cas, pour la conception, le développement de produits innovants, avec l'idée que l'entreprise doit être pérenne aussi, alors je sais bien qu'il y a des partenariats extérieurs, mais... À mon avis, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de trouver des partenariats extérieurs si le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas d'aboutir au projet. Donc, est-ce qu'il y a des spécificités de vos entreprises du point de vue de leur organisation ? Ça, c'est ma première question. Et est-ce que dans des entreprises dans lesquelles, finalement, l'innovation n'est pas l'objectif premier de l'entreprise, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait du transfert possible de vos organisations vers d'autres types d'entreprises qui pourraient à ce moment-là devenir innovantes?
Là, c'est une bonne colle.
Hein. Waouh. Alors on va recommencer peut-être, Frédéric, la première, la question, enfin les deux questions en fait. Hein. Quelle est la spécificité en termes d'organisation, de processus qui fait que on passe de l'idée à la réalisation et on continue d'être en permanence innovant?
Alors, c'est vrai que c'est une question difficile parce qu'on ne peut pas faire et se regarder faire en permanence. Hein. C'est vrai que ce n'est pas simple, mais la question est intéressante parce que c'est vrai qu'on marque de son empreinte et de l'empreinte des dirigeants une entreprise et on essaye de communiquer des messages qui vont au-delà du produit qu'on développe, des technologies qu'on utilise. Nous, ce qu'on essaye, tous pratiquement formation d'ingénieurs dans notre entreprise, en fait, de véhiculer comme idée, c'est que la technologie n'a aucun intérêt. Et qu'il faut, pour qu'elle en commence à en avoir, arriver à la transformer en quelque chose de palpable qui corresponde à un besoin, qui apporte une réponse à une problématique. Donc il faut être très très pragmatique, comme savent l'être parfois mieux que nous les anglo-saxons. Il faut observer son environnement, regarder les problèmes et se dire est-ce qu'on a des compétences spécifiques pour y répondre. C'est pour ça que dans la réponse à la question de tout à l'heure, j'insistais sur ce côté de trouver des axes marché très rapidement. Bien sûr, pour faire vivre la boîte, faire rentrer du cash et générer du chiffre d'affaires, mais aussi pour donner de la crédibilité à ce qu'on fait, parce que les équipes qu'on dirige, on peut les faire travailler pendant des années sur des tas de sujets, des tas de thématiques, mais elles ont besoin aussi de voir que ce qu'elles font sert à quelque chose. Donc la spécificité d'Omedia, je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, nous, on essaye de véhiculer ce message à tous les niveaux. Et on n'hésite pas à mettre nos techniciens en face du client sur le terrain pour qu'il comprenne quelles sont les questions qu'on va lui poser et qu'il arrive à intégrer tout ça dans sa façon de faire. Donc voilà, donner un cadre très concret et très marché, c'est un peu le discours et le langage qu'on essaye de mettre en œuvre. Je finis juste par rapport à cette question. Nous, avant qu'on se crée, c'est-à-dire en 2004, on a essayé de démarcher nos premiers clients et on a trouvé le premier client qui nous a permis de nous lancer à la création en 2005. Et même si ce premier client n'a pas suffi, qu'il a fallu rebondir, se remettre en cause, parce que c'est ça aussi gérer une entreprise, ça a quand même permis de démarrer, d'avoir un cadre. Et je pense que c'est plus facile d'avancer quand on a déjà un périmètre défini. Voilà. C'est la première question, la deuxième je ne me souviens pas.
La deuxième elle est plus difficile, oui, c'est en fait d'un point de vue plus général, comment des sociétés extrêmement innovantes peuvent éventuellement par transfert ou par capillarité entraîner dans leur sillage des entreprises qui ne le sont moins.
Question difficile. Le transfert c'est peut-être justement le passage de l'invention technologique. Moi, je parle de ça parce qu'on est dans la technologie, mais c'est peut-être juste le passage de cette invention à une innovation, c'est-à-dire à un vrai service. Après, il est clair qu'on ne le réalise jamais seul et nous-mêmes avons de nombreuses relations et de nombreux projets avec des laboratoires, puisqu'on s'est créé comme ça au départ, avec des laboratoires aussi autour de nous. Des laboratoires qui ont été aussi un peu choisis parce qu'ils avaient une vision très très appliquée en fait de leur thématique de recherche, ce qui est quand même mieux pour un industriel, pour une entreprise. Donc on essaye d'emmener aussi dans notre sillage ces gens-là avec le client et on essaye de réaliser cet équilibre. Voilà.
Alors je sais pas si on a répondu à la deuxième qui est difficile, mais la première, si j'ai compris la première réponse de Frédéric, on donnera la parole à Guillaume et à Bruno. C'est la techno, c'est bien, mais il faut la confronter au marché. Il faut avoir donc un système où le client soit en permanence au contact avec l'inventeur ou l'innovateur, telle manière à bien capter les usages, parce que si bien compris, c'est ça, c'est la techno, c'est pas une fin en soi. Ce qu'il faut, c'est capter l'usage et donc le besoin du client. Donc il faut avoir une organisation souple qui permette effectivement à ce que le client puisse rentrer dans l'entreprise et soit au contact des chercheurs et de ceux qui produisent l'innovation. Guillaume ?
Moi je rejoins un peu ce qu'a dit Frédéric et peut-être pour répondre en partie à la question. Quand on parle d'innovation, je pense qu'il y a deux niveaux d'innovation. Il y a l'innovation de marché et l'innovation technologique. Et je pense que nos trois sociétés se positionnent en même temps sur l'innovation de marché et en même temps sur l'innovation technologique, ce qui complique un peu l'affaire. Parce qu'on n'a pas parlé d'innovation incrémentale, mais quand on a des technologies, enfin des marchés qui existent déjà, des technologies qui existent, et puis on améliore ce qui est de l'innovation, mais on améliore, ça facilite les choses parce que le marché, il ne faut pas le convaincre. Et la technologie, disons, il y a déjà une base... Il y a déjà une base relativement solide. Pour notre exemple à nous, c'est ce que je disais, il y a 10 ans, personne ne détectait les maladies génétiques chez les chiens et les chats. Et en plus, il n'y avait aucun outil pour le faire. Donc il a fallu convaincre le marché que c'était nécessaire de le faire pour améliorer la santé de ces animaux. Et en plus, il a fallu développer les outils pour pouvoir le faire et développer des outils qui soient fiables et relativement bon marché. Sans prendre la parole à Bruno Bonnel, mais je pense que c'est pareil pour les robots. À l'heure actuelle, personne n'a de robots domestiques chez lui. Et ces robots-là, ils n'existent même peut-être pas encore complètement. Donc il faut... combien, oui.
Levez la main.
Qui a un robot domestique chez lui? Qui a un aspirateur?
Deux.
Quand même.
Cinq. Les autres, les bons de commande sont là.
Pour répondre en partie à la question sur l'organisation, ça veut dire que la technologie, effectivement, elle n'importe pas. Enfin, c'est pas la technologie qui est importante, parce que un vétérinaire ou un éleveur, il est confronté à une maladie. Il n'y a pas besoin de comprendre la technologie pour savoir qu'il y a besoin de la diagnostiquer, cette maladie. Et donc, ce qui veut dire que nous, de notre côté, l'organisation, il y a une équipe commerciale au sens large, qui a vocation, disons, à sensibiliser les acteurs de ce marché, et puis une équipe technique qui a vocation à développer des outils fiables. Mais encore une fois, on ne met pas la technologie sous le nez de l'utilisateur final, quoi. Donc, il y a un vrai travail de vulgarisation, de sensibilisation, voire d'évangélisation. Et quant au transfert, ça nous concerne, nous, pas tellement. Enfin, la question sur le transfert, on est un petit peu moins concernés, je pense.
Bruno ? Moi, je vais prendre la deuxième question. Ça, je ne prends pas la première. On l'a déjà fait deux fois. Je pense, la question du transfert, moi, je trouve que je discute pas mal, historiquement, avec des gros groupes. Ce que vous avez appelé les entreprises qui n'arrivent pas à innover. On dit souvent, le jour où, l'EDF va faire de l'innovation, il n'est pas arrivé. Et en fait, il y a beaucoup d'innovation chez EDF, simplement, il n'est pas révélé, parce que dans notre quotidien, c'est le gars qui relève le compteur et la note bleu ciel. Donc c'est vrai que le groupe, il est perçu à travers des filtres qui ne donnent pas souvent la réalité tangible de ce qui se passe. Je vais vous donner un petit exemple des préoccupations en innovation d'EDF. C'est comment on fait pour que les gens arrêtent de garder en veille leur télévision le soir, la nuit, parce que ça consomme une centrale nucléaire par an en France. Vous voyez, c'est les chiffres, on se dit, mais c'est un peu bizarre, comme toutes les petites veilles, que vous voyez, les petits points rouges, les petits points verts qui sont dans votre maison, c'est une tranche de centrale nucléaire. Donc pour l'EDF, c'est beaucoup d'argent. Donc leur innovation, c'est de dire, il faut qu'on trouve des moyens qui ne sont pas très rigolos, qui sont un peu bourrins, de calcul en ligne, de comment on va faire pour qu'on stimule des choses comme ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut faire attention quand on utilise un mot aussi compliqué que le mot innovation. Parce que c'est un mot qui a plein d'aspirations. On se dit, ah ouais, c'est cool, c'est nouveau, j'ai jamais entendu ça, c'est la mode. Mais c'est aussi un mot qui est un peu barbare, parce qu'on se dit, c'est beaucoup d'argent, on l'a entendu. On croit que ce n'est pas des priorités, alors que c'est la seule priorité d'une entreprise. Une entreprise, c'est un être vivant, et sa respiration, ça va être de générer des nouveaux produits, des nouveaux services, donc en fait d'innover en permanence. Et les entreprises qui n'innovent pas, celles que vous avez citées, moi j'en connais pas, parce que celles que je connais, elles sont toutes mortes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dissocier l'idée de l'entreprise de l'idée de se remettre en question et d'innover. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des révolutions d'innovation, des nouveaux produits, des nouvelles choses, ou ça peut être des petits pas. Ça peut être, on a appelé l'innovation incrémentale, c'est-à-dire on va progresser un petit peu dans notre entreprise. Alors, par rapport à une remarque un tout petit peu plus générale, mais qui est la poursuite de ça, c'est que c'est compliqué d'expliquer. On voit souvent l'innovation dans les produits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle beaucoup de produits, de choses concrètes, de choses qu'on touche, qu'on fabrique, les robots. Mais on a aussi des téléphones portables. On a aussi de l'innovation dans du service, qu'il ne faut pas négliger. C'est quelque chose d'important. Et notamment, dans, par exemple, les manières de travailler. Aujourd'hui, il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui est l'innovation fondamentale des 10 dernières années pour toutes les entreprises, qui est l'Internet. Intégrer les dimensions du réseau Internet dans les entreprises à tous les étages, c'est fondamental. Ça me rejoint, c'est ma conclusion sur votre première question. Faire vivre l'entreprise comme un réseau social, tout comme on le ferait, non pas avec les mêmes rapports, mais tout comme on le ferait pour un réseau social, par exemple d'amis ou de communautés, est une donnée intéressante à réfléchir pour les entreprises qui arrivent. Et que ce soit les toutes petites ou soit les plus grosses. Que ce soit au niveau des forces de vente qu'on peut gérer maintenant avec des équivalents Facebook, ou que ça soit au niveau de la communication, bien sûr, avec les emails et tout ce qu'on peut faire. Mais intégrer cette dimension communication dans l'entreprise, c'est une forme d'innovation dans la gestion de l'entreprise. Et ne pas attendre le staff meeting du lundi pour reporter à son chef des ventes qu'à Castorama Belfort, il y avait tel et tel problème, mais profiter du temps réel, de la compression du temps que nous apportent les réseaux, est une innovation, à mon avis, importante. Donc, pour finir, pour conclure ce que je voulais vous dire, c'est que je crois que si on est chef d'entreprise, on est innovant. Ça va avec. On est innovant parce qu'on a envie d'exprimer quelque chose. Et je crois qu'on se rend très vite compte que c'est cette dynamique qui peut être à petits pas ou par bond qui crée cette innovation. Et dans les grands groupes, je voudrais tuer un mythe là, c'est quelquefois sclérosé, c'est quelquefois frustrant, mais il y a quand même beaucoup d'innovation en permanence. Hein. Beaucoup, beaucoup. Voilà.
Question en face.
Laurent Trontin du Grand Lyon. Je voudrais rebondir sur plusieurs mots que j'ai trouvé intéressants. C'est ce que disait Christophe Dudon sur les usages. Et je pense que vous êtes une belle illustration d'une bonne capacité à identifier quels sont les usages actuels non remplis ou quels sont les usages de demain. Après, la question que je me pose, c'est, vous parlez aussi de réseau social. Est-ce que le réseau social, il doit être que interne à l'entreprise ou est-ce qu'une bonne façon d'identifier les usages de demain et donc les marchés de demain, après on se débrouille pour mettre de la techno dessus et puis pour apporter une réponse, ça c'est un autre problème, qui n'est peut-être pas forcément tant un problème que ça d'ailleurs. Mais pour identifier les usages, est-ce que ce réseau social doit être du partage entre différentes entreprises pour identifier quels sont les usages de demain? Quelle place on peut accorder aux sciences humaines et sociales dans cette recherche des nouveaux usages? Et de là, est-ce que vos modèles d'entreprise sont adaptés à ce travail en réseau d'entreprise avec des intervenants qui ne sont pas forcément des intervenants de l'entreprise?
Belle. Merci Laurent de votre question.
Le pro des réseaux, c'est lui. Hein. Il parle.
Frédéric, peut-être, sur cette capacité. Là, il y avait. Enfin, capacité à repérer les marchés et donc les usages à travers l'utilisation des réseaux sociaux, premièrement, et ensuite de travailler ensemble avec d'autres entreprises en réseau.
La façon de s'y prendre pour obtenir de l'information, pour la collecter, on parle beaucoup de réseau social parce qu'évidemment on pense à Facebook, on pense à toutes ces réussites fulgurantes qui existent et qui ont donné une traduction très concrète de ça, mais ça existe depuis tout le temps. Le principe même de nos activités, c'est d'être très à l'écoute et de ne pas faire ce qu'on a envie de faire, mais de faire ce que notre client, celui qui est prêt à payer, a envie de faire. Donc comment on peut, dans notre entreprise, créer un modèle qui nous permette d'être le plus ouvert, le plus réceptif par rapport à tout ça? J'ai pas de réponse très très concrète, il n'y a pas un modèle qui me vienne à l'esprit, si ce n'est le fait de dire que l'entreprise doit être un modèle de ça, c'est-à-dire d'être à l'écoute, d'observer et puis de faire des choses concrètes. En tout cas, moi, c'est la façon avec laquelle je gère mon entreprise, d'avoir un minimum de pragmatisme par rapport à ça. Alors, le réseau social tel qu'on le voit aujourd'hui et plus spécifiquement dans nos applications à nous sur les smartphones, comme on a voulu nous rentrer dans l'interaction, faire interagir l'individu avec son environnement, ne plus le laisser simplement passif, pouvoir tweeter ou envoyer des informations via email ou via Facebook, c'est aussi un moyen d'améliorer les services ou les produits qu'on met à disposition. Si je prends l'exemple du transport, ça a commencé à la radio il y a un certain temps quand les gens disaient voilà, il y a des chantiers à tel endroit, il y a des blocages à tel endroit, et puis aujourd'hui on va le retrouver sur le mobile, ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est un élément qui permet d'avoir une observation très factuelle, très concrète, très temps réel de ce que peut percevoir un usager sur un service donné. Et il y a de plus en plus d'entreprises, en tout cas celles pour lesquelles on travaille, notamment dans le transport, qui sont évidemment aujourd'hui convaincues que sur une application, par exemple smartphone, qui va permettre de délivrer de l'information temps réel, il faut absolument donner la parole à l'usager parce que lui, il vit la situation au quotidien. Voilà, notre... économiste a dû être pris dans des problèmes de transport. Et donc ces problèmes de transport, on peut aussi les renvoyer sur l'exploitation et améliorer les choses. Donc il y a des outils qui existent. Après, en termes de modèle, je n'ai pas de réponse très précise par rapport à ça, si ce n'est de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on essaye d'apporter des réponses suite à des observations très concrètes que l'on peut faire, mais que les autres aussi, dont les autres nous font part.
Guillaume ou Bruno, est-ce que vous utilisez, pour reprendre la remarque qui a été faite, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour repérer, anticiper, observer les usages qui se dessinent et qui sont en émergence et qui pourraient démarcher pour vous, bien entendu?
Oui, je vais le faire. Bien sûr qu'on utilise les réseaux sociaux. Bien sûr que, alors on dit réseaux sociaux et au sens large, tous les moyens apportés par l'Internet. Mais il ne faut pas se tromper de débat. Ils ne sont pas la solution, parce que ça serait cool. On va sur Facebook, on regarde ce que les gens aiment, et puis on dit, tiens, ça y est, on fait tous la même boîte, hein, parce qu'ils aiment tous à peu près la même chose, spontanément. Surtout si c'est une jolie blonde ou un super mec, tout le monde les aime bien. Donc, je crois qu'il ne faut pas se tromper il faut pas se tromper de débat. Derrière une entreprise, il y a aussi une intuition. Moi, je dis souvent, une entreprise, ça naît d'une conviction et ça meurt d'une certitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est convaincu. On dit ça, c'est un truc, et c'est ça qui donne l'élan de la création. Après, si on reste figé sur ces certitudes, il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir justement ces réseaux sociaux qui nous apportent une information complémentaire. Donc c'est fait pour nous bousculer aussi dans nos certitudes, mais il faut lire ce qu'on apprend sur le net ou ailleurs. Il faut lire à travers un filtre qui est quand même son axe de développement, sa conviction. Alors ça, c'est la première chose. Oui, on les utilise tout le temps, à la fois en interne et en externe. Quant au problème du réseau, je pense qu'on est encore... On est encore dans des idées d'entreprises qui ne sont pas dans leur écosystème, c'est-à-dire qui sont assez isolées les unes des autres. J'ai mon entreprise, elle a son compte d'exploitation, elle a son marché, elle a sa concurrence. Je fais attention à ne pas en trop dire aux autres, mais il faut quand même que je communique, donc il faut que je fasse attention. Et je crois que le modèle d'entreprise que nous connaîtrons demain, il est ce modèle en réseau. Ça se fait pas mal déjà au niveau des associations professionnelles, par exemple, qui échangent beaucoup de données maintenant, à travers des sites web communs ou des choses comme ça. Ça va descendre, je crois que c'est encore un petit peu tôt, mais ça va descendre au niveau d'entreprise qui auront effectivement des liaisons. On aura des entreprises amies avec qui on partage des trucs, en référence à ce qui se passe par exemple sur Facebook. On a des amis et on échange des trucs, et plus profondément que ceux qui ne sont pas nos amis. Mais on n'en est pas encore là, mais on avance.
Enfin, moi, je pense que ça va probablement plus loin que Facebook ou que Internet, parce que c'est un outil. Enfin, il y a deux aspects. Enfin, pour nous, on l'utilise un peu, mais ce que je constate quand même, c'est que l'information, elle peut être quand même souvent très biaisée. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit le seul canal de remontée d'information, du terrain. Et après, à mon avis, un élément de réponse à votre question, c'est aussi nous, on fait beaucoup de recherches collaboratives, mais au-delà de ça, je dirais d'innovation partagée. C'est-à-dire qu'on travaille énormément avec le monde académique, avec le CNRS, l'INRA, même l'INSERM, donc les grands laboratoires académiques en France ou même à l'étranger, les universités, les écoles vétérinaires, mais également avec les utilisateurs. C'est-à-dire, je vous parlais des éleveurs, des vétérinaires, des écoles vétérinaires, etc., et avec l'ensemble, avec l'ensemble des acteurs de ce marché. Et l'innovation qu'on produit à l'heure actuelle, elle serait impossible si tous ces acteurs n'étaient pas partie prenante. On ne pourrait pas tout seul, d'ailleurs, on n'a pas les moyens. Mais ensuite, il y a de l'information qui vient de l'ensemble de ces acteurs. Alors après, est-ce que cette information, elle vient par des contacts directs, ou est-ce que on utilise, disons, les nouvelles technologies, Internet, etc., et les réseaux sociaux pour monter cette information? Oui, ponctuellement, et je crois pas mal à ce qu'a dit Bruno sur effectivement les entreprises amies, c'est-à-dire qu'au-delà des laboratoires académiques, des acteurs, des utilisateurs, etc., on a aussi un certain nombre de partenaires Alors, dans notre domaine d'activité, par exemple, on travaille avec des sociétés comme Merial, que vous connaissez peut-être, qui est un des leaders mondiaux de la santé animale. Voilà, donc on a des entreprises amies avec lesquelles on collabore, avec lesquelles on peut développer aussi de la recherche et avec lesquelles on peut développer des produits.
Je crois qu'il y a une question ici. Allez-y, je vous en prie, madame.
Donc vous venez de montrer l'importance de la collaboration entre entreprises et puis l'importance de transférer les informations entre les entreprises et les centres de recherche publics. Mais dans l'innovation, il y a un paradoxe au niveau macroéconomique. Ça veut dire que pour stimuler l'innovation, il faut protéger. Mais d'un autre côté, il faut que cette information passe partout parce que c'est un bien public, enfin la connaissance. Donc j'aimerais savoir comment vous faites, vous, pour protéger, parce que vous avez déjà parlé de diffusion d'informations.
Alors, on prend les mêmes et on commence dans la protection. Excusez-moi, vous avez aussi bien sûr cette notion de brevet, c'est-à-dire comment effectivement on protège effectivement l'information et l'innovation que l'on crée et comment on s'en sert ensuite pour évidemment la commercialiser.
C'est vrai que c'est un sujet compliqué de voir à la fois dire ce qu'on sait faire, comment on le fait pour être très convaincant et en même temps ne pas laisser la porte ouverte à la copie. Le problème en réalité il n'est pas là parce que quand on crée une entreprise, on sait qu'on se jette dans un bain qui est celui de la concurrence et c'est ça qui nous stimule et évidemment on en accepte parfaitement les contraintes. Alors les brevets c'est un élément fort, par exemple chez Embedia on a posé 3 brevets. Alors est-ce que c'est pour faire du défensif, de l'offensif, je ne sais pas trop, aujourd'hui j'ai pas de stratégie toute faite, si ce n'est que c'est un bon moyen pour nous de valoriser très concrètement le travail effectué. Là aussi, tout à l'heure je disais qu'une façon de valoriser le travail de l'équipe, c'était de le faire sortir de son bureau d'études pour aller voir le client. Le fait de savoir qu'on a passé les étapes qui permettent de délivrer un brevet, c'est aussi important, mais après les brevets, il y a les marques qui permettent de protéger une approche de communication, de marketing, et ça aussi c'est très présent chez nous. Et puis la relation client qu'il faut verrouiller le plus possible dans le bon sens du terme, c'est-à-dire être chaque fois celui vers lequel le client a envie d'aller, et puis arriver en interne à mobiliser ses équipes en permanence, ça aussi c'est un moyen de protéger son savoir-faire. Bref, en fait c'est toute la question d'entreprise qui est posée derrière ça, mais j'aime pas vraiment le terme de protéger en réalité, parce qu'on se met dans une position où on a des inquiétudes par rapport à ce qu'on fait. Et moi, je pense qu'il ne faut pas en avoir. C'est-à-dire que si on veut vendre son produit, ben, on est prêt à communiquer dessus, on est prêt à en parler, on est prêt à le faire partager. Ça ne veut pas dire qu'on ouvre nos classeurs, nos PC à tout le monde, mais ça veut dire être suffisamment confiant sur la valeur ajoutée qu'on apporte sur ce qu'on fait. Et puis, voilà, il existe des dispositifs, comme on l'a dit, qui permettent quand même, sur le plan légal, d'avoir un minimum de reconnaissance sur la valeur du travail produit, quoi.
Guillaume, vous avez été confronté à ces problématiques et ces difficultés à la fois à déposer, brevet, se protéger, mais en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, faire de la recherche collaborative, ça veut dire partager l'information, éventuellement partager avec des concurrents.
Ah oui, c'est un problème extrêmement compliqué parce qu'on protège effectivement un petit peu, on a des brevets, des licences exclusives, etc. Quand c'est avec le monde académique, c'est moins compliqué parce que le CNRS ou l'INRA n'a pas vocation à exploiter directement ses produits, donc c'est un peu plus facile. Quand c'est avec des entreprises ou avec d'autres laboratoires privés, c'est évidemment un petit peu plus compliqué. Et je dirais qu'on fait un peu les deux, c'est-à-dire qu'on protège, et puis il y a d'autres applications qu'on a décidé de ne pas protéger, qu'on a partagées avec d'autres entreprises, qu'on commercialise, alors peut-être sur des territoires différents, ce qui facilite des fois un peu les choses, mais qu'on commercialise de la même façon. Et alors ce que je voulais dire derrière ça, c'est que moi j'ai un peu l'impression qu'il y a une vision restrictive du brevet et de la protection, parce que encore une fois, on rejoint la technologie. Et il n'y a pas que la technologie. Alors pour nos applications à nous, on ne commercialise pas uniquement une technologie. Il y a tout ce qui va autour, et notamment le service, Bruno Bonnel en parlait, et je dirais qu'à l'heure actuelle, pour nous, ce qu'on commercialise, le service, c'est au moins 50%, si ce n'est pas plus. Et ce qui veut dire que même si on a une entreprise concurrente qui va proposer le même produit, nous, notre vocation, c'est d'avoir une équipe performante pour pouvoir vendre le meilleur disons, produit-service, quoi. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble qui compte. Et c'est peut-être, je pense, la façon de se différencier. Et enfin, alors là, c'est peut-être un grand débat, mais je ne sais pas quel est l'avenir de la propriété industrielle. J'entendais il n'y a pas très longtemps qu'il y en avait de plus en plus de propriétés, qu'il y en aurait de plus en plus, etc. Je ne suis pas du tout convaincu. Et quand on voit le monde asiatique, la façon de procéder justement du monde asiatique, moi, je pense qu'on va au-devant de beaucoup plus de contrefaçons. Que la protection, elle est extrêmement coûteuse. On a des systèmes qui sont extrêmement coûteux, qui ne sont pas si souples que ça, qui ne protègent pas tant que ça. Et est-ce qu'il ne faut pas imaginer un système... alors, sur la technologie pure, du produit pur, c'est peut-être différent, parce que nous, c'est différent, mais est-ce qu'il ne faut pas imaginer des systèmes qui soient plus souples, justement, où la différenciation des entreprises, elle ne se fera pas uniquement sur l'innovation technologique, mais sur l'ensemble. Alors, c'est peut-être un peu idéaliste, mais bon.
Voilà, vous avez... une expérience.
Presque tout a été dit, mais je voudrais juste vous donner deux exemples intéressants. Quand vous cherchez du financement dans une entreprise, on vous demande votre idée, bien sûr, et puis après on vous dit quels sont vos actifs. Et puis, dans les actifs de l'entreprise, on considère que les brevets sont des actifs. Alors moi, je suis génial, j'ai le brevet d'une pompe à eau en 2010 qui est à main et qui ne sert à rien. Ce que je veux dire, c'est qu'un brevet, il a une durée de vie. Alors, il a une durée de vie qui, à l'époque où l'industrie pensait en dizaines d'années, il avait des durées de vie de dizaines d'années. À l'époque où l'industrie aujourd'hui pense en quelques années, et certaines industries en quelques mois, je crois qu'on est dans le ridicule. Et à côté de ça, il faut regarder qu'il y a des développements dans l'informatique. Intéressant, par exemple, tout ce qui est le développement de l'open source, où on a vraiment pris le contre-pied, c'est-à-dire qu'on a dit, non, il n'y a absolument rien d'interdit, allez-y, faites ce que vous voulez. Et on s'aperçoit que c'est là où ça fleurit le plus, les idées, les innovations, les produits. Donc je crois, je souscris complètement à l'idée que la propriété industrielle, c'est une espèce de ligne Maginot désuète qui se fait défoncer par la contrefaçon. Essayer de s'inventer des protections... un petit peu comme les chevaliers étaient très contents d'avoir des armures de 150 kilos et ils avaient juste oublié qu'ils pouvaient juste plus bouger avec, c'est un petit peu ça le truc. C'est que faut s'imaginer qu'on n'est plus des chevaliers du Moyen-Âge, on est des ninjas, hein, et donc on doit avoir des trucs super souples. Et ça va aider. Et je crois, non mais il y a un élément très très important dans ces problèmes-là qui ne peut pas être pris en compte par la loi encore aujourd'hui. Parce que la loi, la justice, c'est quelque chose qui prend du temps pour décider, pour structurer. C'est la vitesse de l'économie moderne. Et cette vitesse de l'économie moderne, elle empêche, et d'ailleurs, moi, enfin, la plupart des boîtes que je connais dans les new techs, qui est quand même plus ou moins mon secteur, ne déposent pas de brevets, hein, avancent. La plupart, ils déposent des brevets pour ce qui a été dit par Frédéric, ils déposent parce que c'est quelque chose d'important pour certains, en interne. Ah, on a un brevet, c'est cool. Mais on va pas se mettre, ça va coûter plus cher de défendre le brevet que de l'avoir. Maintenant, il y a des boîtes, il faut le savoir, pour ceux que ça intéresse un jour, il y a des gens dont c'est le métier d'arriver à trouver les brevets, les défendre jusqu'à la mort et gagner de l'argent à rien faire, si ce n'est défendre les brevets. C'est pas ma vision de l'entreprise.
Et après, peut-être une précision, parce que nous, on a vécu ça au début d'Antagène. Et s'il y en a ici qui ont l'idée de créer des entreprises, je pense qu'il faut lever ça. Nous, quand on a créé Antagène, on nous a dit... on cherchait de l'argent, évidemment, auprès d'investisseurs privés. On nous a dit, si vous n'avez pas de brevet, c'est même pas la peine d'y aller. Et ça, le nombre de fois où je l'ai entendu, c'est énorme. Hein. Et si on les avait écoutés, on n'aurait rien fait. À l'époque, on n'avait pas de brevet. On en a depuis, un peu, mais on n'en avait pas à l'époque. Et je peux vous dire que c'est une idée qui est complètement stupide. Parce que la question, c'est évidemment de se protéger un minimum, d'avoir ce qu'on appelle des barrières à l'entrée sur le marché, c'est-à-dire la performance dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'être bon, d'avoir une équipe qui est bonne, d'apporter des services qui sont bons, etc., et d'avoir de l'avance sur des entreprises concurrentes. Et ça, les investisseurs privés sont tout à fait capables de le mesurer sans forcément avoir des brevets dans les actifs de l'entreprise. Donc il faut, à mon avis, complètement... lever cette idée que le brevet est une espèce de super protection et de super actif qui va tout permettre.
Alors, est-ce que la salle se sent encore disponible? Oui, une question, monsieur.
Bonjour à tous. Je dirige une entreprise de dynamique collaborative, et notamment sur l'open innovation. Et je voudrais poser une question assez simple. Qu'est-ce qui finalement vous différencie chacun dans votre entreprise sur le marché par rapport à deux axes? Le premier, c'est celui finalement de l'animation en interne de vos process de créativité et d'innovation. Et puis, dans un deuxième temps, par rapport à l'extérieur, je crois que M. Quesnay l'a évoqué, l'animation de l'écosystème, est-ce que, selon vous, est quelque chose de différenciant dans chacune de vos entreprises? Alors, écosystème, j'entends oui. L'ensemble des parties prenantes. Vous aviez évoqué des laboratoires, des partenaires, je ne sais pas. Merci.
Enfin, je ne sais pas si ça peut répondre à la question, mais je pense qu'il faut être... effectivement, il y a un réseau à animer, il faut être présent dans cette dynamique de collaboration, etc. Et pour donner un exemple, il y avait à Baltimore en septembre le congrès de génomique animale et de génomique pardon canine et féline. Donc c'est un domaine assez spécifique, mais bon, il y a un congrès tous les ans dans ce domaine-là, et on fait partie, disons, des structures au niveau international qui sont reconnues pour la qualité de la recherche, de l'expertise qu'on a dans ce domaine-là. On était la seule entreprise privée à être présentée. On a été présenté dans il y avait des présentations orales sur différents sujets, qui étaient souvent des présentations par des laboratoires académiques, qu'ils soient anglais, américains ou européens. On a été cité 5 fois comme collaborant dans 5 études. On était la seule structure privée au monde à être présente dans ce congrès et à être cité pour être partie prenante à des collaborations. Donc, pour moi, ça, c'est un élément différenciateur. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas le brevet qu'on va déposer, mais c'est qu'on est au cœur de l'innovation dans les laboratoires académiques, et que ça nécessite effectivement d'animer un réseau. On fait partie aussi de consortiums européens, et donc on est continuellement aux aguets concernant toutes les nouveautés qui peuvent sortir. Et évidemment, c'est d'autant plus facile si on collabore avec toutes les structures qui innovent, qui font ces nouvelles découvertes, qui trouvent de nouveaux gènes, etc. Je ne sais pas si c'est un élément de réponse à votre question.
Frédéric ? Oui, alors, comment on développe un aspect différenciant à travers un côté collaboratif ? Nous, c'est vrai que c'est un peu pareil. On travaille avec des laboratoires, on travaille avec... des gens qui réfléchissent sur les métiers que j'ai cités, c'est-à-dire l'éducation, le transport. Mais il faut être tout à fait honnête, quand on a une structure comme Embedia de 10 personnes, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas partir partout, participer à tous les forums, les salons, surtout que ça coûte cher parfois. Et donc on essaye de bien choisir les partenaires avec lesquels on travaille. On est obligé de réduire un peu le périmètre parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai dit, partir dans tous les horizons. Mais c'est de la qualité de ce choix qu'on peut faire de travailler avec d'autres et du choix qu'ils font de travailler avec nous qu'on arrive à sortir quelque chose qui est un peu plus différenciant que la moyenne. C'est vrai que dans notre histoire à nous, en antécréation, on est passé par l'incubateur Créalis sur Lyon, et ça nous a permis d'échanger avec des chercheurs sur les dimensions radio, sur les dimensions réseau, et ça nous a permis d'avoir on va dire un background plus élaboré sur ce qu'on était en train de faire, de mieux comprendre ce qu'on était en train de faire. Et le retour est immédiat, c'est que quand on commence à travailler, par exemple, dans le métro de Lyon, et qu'il faut veiller à ce que les systèmes qu'on met en place ne viennent pas perturber ce qui existe par ailleurs, ou qu'on puisse faire des cartographies d'ondes radio pour être sûr que tout va bien se passer, parce que c'est des demandes du maître d'ouvrage, eh bien on sait sur qui se retourner, parce qu'on a un laboratoire avec lequel on travaille, on n'a pas besoin de tout inventer et de tout faire. Donc accepter de ne pas tout faire, c'est peut-être le début, en fait, de la réponse. Et ça rejoint l'idée de partage, mais pas avec tout le monde, évidemment, parce qu'il faut aussi, être économe dans son temps, et parce qu'on n'en a pas les moyens.
Moi, je vais répondre à la première partie, puisqu'ils ont plus parlé d'externe en interne. J'ai dit tout à l'heure qu'une entreprise, de mon point de vue, c'était au départ une conviction. C'est aussi un truc important qui est l'enthousiasme. Et on ne le dit pas assez. Moi, je voyage dans pas mal de pays. Quand on a un peu l'habitude, qu'on en aime les cultures étrangères, on s'aperçoit qu'il y a des vibrations différentes Moi, ce que j'aime bien dans cette session des GECO, c'est pour ça que j'ai accepté d'y participer, c'est qu'on peut essayer de communiquer de l'enthousiasme. Dans une entreprise, c'est pareil. Je crois qu'une entreprise qui est créée par un homme ou un groupe d'hommes et de femmes, ça peut aussi être créé par une femme, je vous rassure. Hein, et ce sont parmi des très belles entreprises. C'est une projection assez directe de la personnalité de son fondateur au départ. Donc dans une phase de développement initial, je ne vous parle pas là des grandes entreprises qui ont des mécanismes qui sont plus complexes. Dans une phase de développement initial, c'est bien la personnalité, c'est la projection de la personnalité de son fondateur. Ce que j'entends à cette table, c'est qu'il y a énormément d'enthousiasme dans des métiers complètement différents. Mais donc quand vous me parlez de comment on arrive à générer une animation de collaboration sur des thèmes porteurs, ça, c'est déjà un premier critère. Le deuxième, c'est que le rôle et la mission et le devoir d'un chef d'entreprise, c'est non pas d'être obsédé sur un produit, mais de donner un véritable axe de développement à sa boîte. C'est-à-dire qu'en gros, on ne dit pas « je vais faire une boîte parce que j'ai inventé une bouteille d'eau et c'est cool », on me dit « je vais faire une boîte parce que tiens, je vais me spécialiser dans le transport ou la vente de liquide ». Donc pourquoi il faut définir un axe plutôt qu'un produit ? C'est parce que ça va donner un champ de liberté aussi aux gens qui vous accompagnent dans l'entreprise d'expression, mais dans une certaine direction. C'est-à-dire que c'est pas « ah bah tiens, on est tous une bande de potes, on a fait une boîte, alors aujourd'hui on fait de la flotte et demain on fera des téléphones portables ». Non, on a dit qu'on faisait de l'eau. Enfin, on a dit qu'on faisait du liquide. Donc, on peut faire du vin, si tu veux. Ce serait plus sympa, d'ailleurs, mais on va faire du liquide. Et on ne fera pas de pain. Ou alors, si l'axe était de dire on fait le petit-déj, alors oui, on peut faire du pain, du vin, du biscuit, du jus d'orange, ce qu'on veut. Et cette idée, c'est de bien... Le rôle du chef d'entreprise, c'est de le gardien de ça. Donc, il y a de l'enthousiasme et en même temps, une rigueur de direction. C'est comme ça qu'on arrive à faire une animation interne. Maintenant, quand on est un peu taciturne, un peu introverti, il y en a des chefs d'entreprise comme ça. Ben, l'entreprise va être apparemment plus tranquille, plus pépère, mais elle garde quand même cette dynamique qui est quand même ce pas important, qui est de dire je vais créer une boîte. Et donc ça, c'est ma remarque un peu générale. Et enfin, le choix, qui est un choix extrêmement difficile des gens qui vous accompagnent dans l'entreprise, c'est pas comme dans certains territoires, les États-Unis par exemple, un choix de briques. Un organigramme américain, généralement, c'est généralement un mur de briques où on a des briques assez interchangeables. C'est le formatage, il faut le respecter, de la culture de ce pays. Nous, on est plutôt des latins, on aime bien être un peu toujours aux marginaux. On dit, on est directeur financier, mais j'aime bien le marketing aussi. Hein. Ah ben, je suis directeur des ressources humaines, mais je ne suis pas mauvais en qualité et en test. Alors qu'aux États-Unis, vous êtes directeur des ressources humaines, vous êtes ça. Vous êtes responsable de qualité, vous êtes responsable de qualité. Donc dans des pays plus latins comme le nôtre où les gens ont envie d'être un peu à la marge, un peu plus souple, il est très important de choisir des gens qui vont d'abord et avant tout adhérer au projet de l'entreprise. Et donc il y a une gestion humaine qui est quand même... Donc si je résume, l'enthousiasme, une direction et un management permanent et un choix surtout assez précis des gens pour aller... dans un projet d'innovation développé. Ça serait ça un peu la manière de le faire en interne. En externe, on a déjà bien beaucoup parlé, je ne vais pas revenir.
Je vous en prie.
Oui, justement pour prolonger ce que vous venez de dire, je m'interrogeais sur le lien entre innovation et emploi. Quel type d'emploi et quel regard avez-vous par rapport à l'emploi, à l'évolution de l'emploi donc dans vos secteurs d'activité, et surtout le décalage qu'il peut y avoir entre la vitesse de l'innovation et la lenteur de la formation. J'aimerais avoir votre sentiment par rapport à ça.
Ça, je vais bien le prendre tout de suite.
Oui, Bruno Bonnel.
Juste parce que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que moi, je travaille dans la robotique. Et bien évidemment, la caricature que vous entendez toujours, ah ben les robots, c'est sympa, Bonnel, mais tu vas nous prendre des emplois. Ah ben ça va nous prendre des emplois. Regardez, les caissières de Carrefour, on va les remplacer par des machines. Les infirmières, on va les remplacer par des machines. Parce qu'aujourd'hui, on a des appareils robotisés qui savent prendre la tension, faire des prises de sang, vous injecter des sérums d'une façon complètement automatique et indolore. Ces machines existent. Et on dit, ah ben non, alors attends, si on fait ça, alors... que vont devenir les infirmières. Il faut savoir que, et ça c'est un sujet compliqué à expliquer en trois phrases, mais on va quand même essayer, c'est que la clé de l'emploi, c'est le gain de productivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les pays qui continuent à avoir une marche vers l'emploi, c'est des pays dans lesquels les entreprises ont fait des gains de productivité, se sont donc donné des marges de manœuvre pour pouvoir réinvestir et se développer. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Ça veut dire, par exemple, que pour ceux qui ne connaissent pas ces pays-là, la Chine, on vous la caricature souvent dans les médias comme étant une assemblée de petits Chinois qu'on voit encore à tort en col Mao et à vélo, qui sont dans des usines à travailler comme des bêtes, à dormir sur leurs machines à coudre, pour que nous, on puisse se payer des vêtements de luxe. Ce n'est pas du tout ça, la Chine. La Chine, c'est des usines hyper robotisées, avec des types qui sont en costard, la plupart du temps, ou des gars qui sont en salopette pour vérifier de la maintenance, et des chaînes automatiques qui fleurissent de partout pour fabriquer effectivement des produits à des coûts absolument imbattables. Je pense que si on aborde le problème de l'innovation en disant « Ah ouais, mais attends, si on fait des robots, alors on tue des emplois, si on améliore des méthodes, alors on enlève des mecs à des postes de travail, on se pose une grosse... on fait une vraie erreur parce que on n'anticipe pas d'abord qu'on est dans un monde global dans lequel il y a d'autres pays qui ne font pas comme ça. Mais bon, on pourrait être différent. Mais quand même, pour vous donner quand même une idée, le coût de fabrication moyen d'un produit électronique grand public, hein, une radio, un lecteur MP3, un téléphone portable, entre une fabrication en France et une fabrication en Chine, c'est à peu près divisé par 3 en termes de coût. Donc c'est vrai que quand vous avez un produit qui vaut 2 euros, vous dites bon, c'est 6 euros contre 2 euros. Vous avez un produit qui vaut 100 euros, vous dites c'est 100 euros contre 300 euros. Ça commence à faire des prix qui sont un peu... Alors, je caricature un petit peu, mais si vous donnez des chiffres un peu de tension qui se passe au niveau de pays qui sont déjà en avance sur les gains de productivité et de pays qui sont un peu à la traîne ou qui ont fait des choix industriels différents. En l'occurrence, le nôtre, à savoir d'arrêter depuis une trentaine d'années l'industrie en se concentrant sur le service. C'était sale, les usines c'était sale, c'était fatigant, il y avait des grèves. Puis bon, ils gagnaient des parts de marché, ils étaient payés moins cher, comment on allait faire? Je pense que c'est une erreur et qu'on peut rattraper cette erreur par l'innovation. Et mon point, c'est de dire que il faut faire le pari, et c'est en tout cas le pari qui semble être fait par à la fois les instances qui nous gouvernent et les autres d'ailleurs, de dire que on ne continuera à être des exportateurs, on continuera à être un pays qui se développe, que si on investit dans l'innovation, dans les idées et dans l'augmentation de la productivité. Et là où votre question est complètement pertinente, c'est que ça va entraîner deux choses. La première, une nécessité de pousser les formations. Et c'est une grosse frustration, parce que quand on arrive au bout de 5 ans d'études, on se dit, putain, je suis bac plus 5, je ne trouve pas de boulot. Ben non, il va falloir se mettre dans la tête que les boulots, ça va plutôt être bac plus 7, bac plus 10. Parce que ça veut dire que le bac, ça ne sera plus qu'une étape assez marginale dans sa progression. On raisonnera peut-être en disant, je suis licence plus 3 ou master plus 3. On ne dit plus, je suis BEPC plus 9. Hein, donc, c'est un point important. Et donc pousser ces formations va être important. Et deuxièmement, arriver à savoir ce qu'on va faire de ces gains de productivité, savoir est-ce qu'on va, et à mon avis c'est ce qu'il faut faire, les réinvestir justement pour que ça génère de l'emploi, ou est-ce que dans certains pays c'est le cas, les gains de productivité partent plutôt ailleurs et ne bénéficient pas à l'emploi. Donc on ne résoudra pas cette équation facilement, mais il est important d'avoir l'audace de dire il faut aller dans la direction de l'innovation, et pas être sclérosé sur des schématiques de dire « Ah ben si j'ai plus de caissière à Carrefour, alors je perds des emplois. » Et surtout se mettre dans la tête qu'il ne faut pas que ça soit d'autres pays qui fabriquent les caisses automatiques, qui fabriquent les systèmes automatiques, alors dans mon secteur robotisé, mais dans d'autres secteurs autrement. Je reviens de Corée, j'étais la semaine dernière en Corée. Je discutais avec certaines personnes du gouvernement coréen pour justement implanter des robots là-bas. Ils nous ont expliqué « Mais si vous n'êtes pas coréen, on ne vous signe pas de contrat. » Pour eux, c'était fondamental que les robots coréens soient fabriqués en Corée. C'était même pas un débat. Et ils vous le disent comme je suis en train de vous le dire. Ça ne leur pose aucun problème. Ils regardent dans les yeux et disent ben non, non, ce n'est pas du protectionnisme. Non, pas du tout. C'est juste qu'on pense qu'on est meilleur et qu'on veut que ça soit fait là. D'ailleurs, venez, vous allez voir, installez-vous à Séoul. Je vous le prouverai. Donc je crois que si on peut faire passer cette idée qu'il faut arrêter d'être superficiel sur les analyses de l'emploi et de l'innovation, et que ce n'est pas l'impact instantané qui est important, mais ce qui va se passer sur 5, 10 ans, y compris les formations, y compris les reclassements, y compris les requalifications, ben on a peut-être une chance de sortir, alors que si on reste dans la sclérose urbaine, non, on doit se garder l'ensemble du tissu et arrêter l'innovation. Moi, je ne crois pas à la décroissance, je sais que ça, c'est un petit peu à la mode, mais je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction.
Si je peux, ça, je voulais juste apporter un petit... sur la formation, enfin... Je suis d'accord, mais enfin, je voudrais juste que, enfin, faut pas faire croire à tout le monde qu'il faut faire absolument des études supérieures pour ou très supérieures pour pouvoir s'en sortir sur le marché de l'emploi, parce que moi je crois beaucoup au rôle de l'entreprise pour assurer une partie de la formation. Et ça, je pense que c'est un gros problème qu'on a à l'heure actuelle en France, peut-être en Europe en général. Enfin, je connais pas assez bien la situation ailleurs. Pour donner notre exemple à nous, il y a des docteurs, des ingénieurs, des techniciens. Dans le domaine de la génomique animale, c'est quand même un domaine assez pointu. Il y a génomique canine et féline encore plus. Il y a très peu de techniciens qui sont formés aux techniques qu'on utilise au jour le jour chez nous. Donc il y a une formation de base qui peut être qui est un bac plus 2, c'est-à-dire que c'est des techniciens qui connaissent bien la biologie moléculaire et qui sont des bons manipulateurs au laboratoire. Et c'est des personnes qu'on forme au laboratoire. Et ce que je constate malheureusement, c'est que ce qu'on constate pour nous, mais un certain nombre de sociétés de biotechnologie que je connais, c'est que ça devient, ce qui est normal, mais ça devient le rôle des entreprises de former ces techniciens, enfin, ou d'autres profils. Et ce qui est surtout dommage, c'est que les grands groupes ne le font pas. Enfin, en tout cas, dans notre domaine d'activité, si on regarde les grands groupes dans le domaine de la biologie, santé et autres, ces groupes n'assurent quasiment pas la formation. Des jeunes qui sortent de l'école, c'est ce qui veut dire que on le sait très bien, la situation est difficile, on sort de l'école, on trouve pas de boulot. Nous on l'a vu, on a des gens qui rentrent chez nous qui trouvent pas de job dans les grosses boîtes sur Lyon, ils passent un an, deux ans chez nous et ils rentrent direct dans les grosses boîtes derrière, quoi, parce que ils ont été formés. Donc c'est nous qui assumons le rôle de formation, en gros, enfin je dirais formation pratique. Et les grosses boîtes le récupèrent. Donc je pense que là, enfin bon, c'est là aussi c'est peut-être un peu une idéologie, enfin idéologique de penser ça, mais je pense qu'il va falloir que les grosses boîtes, enfin en tout cas dans notre domaine d'activité, fassent quelque chose sur la formation.
Je suis obligé de répondre. Je suis obligé de répondre en une phrase. Bien sûr qu'il ne faut pas être tous bac plus 25 pour trouver de l'emploi. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire.
Oui, non, mais...
Ce que j'ai voulu dire, non mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est que la qualification va être nécessaire à quelque niveau que ce soit. Et quand j'ai dit tout à l'heure un bac plus 5, on dit je ne trouve pas de boulot, c'est parce qu'on s'attend, quand on a fait aujourd'hui 5 ans d'études supérieures, à dire finalement, je vais quand même être accueilli par le marché de l'emploi. C'est malheureusement plus le cas. Mais bien évidemment, je suis d'accord avec cette remarque qu'il n'y a pas que les emplois hyper qualifiés qui vont être là. Mais la tendance des pays dont je vous parle beaucoup depuis tout à l'heure, qui sont les pays asiatiques, qui montrent quand même une dynamique aujourd'hui intéressante. Mais il y a aussi des pays comme le Brésil, on peut les citer, les pays comme l'Indonésie, on peut citer, les pays comme l'Inde, qu'on peut citer. C'est d'aller vers de plus en plus de formation et de qualification des gens. Donc moi, si j'ai qu'un message à dire aux jeunes que je vois dans la salle, c'est... Je sais que ça vous fait un petit peu suer, mais continuez à vous former. On rigolait tout à l'heure en préparant cette réunion, parce que je racontais que je suis, moi, les cours de l'université en robotique de Bombay sur Internet. Alors, ça faisait marrer tout le monde, parce que justement, l'Inde, par exemple, a fait un parti pris de balancer tous les cours de ses meilleures universités par ses plus grands professeurs en ligne gratuitement. Et les types suivent des cours de maths, des cours, moi, c'est des cours de robotique, il y en a d'autres qui suivent des cours d'électronique et de biologie. Sur le net, donc je vous encourage à comprendre que c'est vers là que va le monde, c'est vers de plus en plus de qualifications. C'est tout.
Christophe, juste, je vais
on va s'autoriser, un petit dépassement juste de quelques minutes, histoire de bien.
J'aimerais juste apporter un élément complémentaire sur l'éclairage par rapport à l'emploi. Et je vais citer un exemple très précis, très concret. Quand on travaille par exemple sur un projet comme celui cité dans le métro de Lyon, on ne travaille pas seul, on travaille avec des intermédiaires, des industriels, des partenaires. Mais pour essayer de la faire courte, sans rentrer dans le détail du métier, nous, on travaille avec un premier niveau d'industriels qui intègrent nos systèmes dans leurs panneaux d'affichage, les panneaux à LED. Et puis, ces industriels travaillent et on travaille avec la société qui a pris un marché et qui va générer tout le système de flux d'informations et qui va faire l'installation. Tout ça, on le fait avec un maître d'œuvre qui est là pour gérer la bonne marche du projet, avec des assistants à maîtrise d'ouvrage. Par exemple, à Lyon, c'est Keolis l'exploitant, pour vérifier que ce qu'on va mettre en place va vraiment être utilisé et utilisable. Et puis, au sommet de la pyramide, le maître d'ouvrage, le Citral, qui est le décideur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2 ans de projet, là où il n'existait rien dans le premier partenaire cité, chez le deuxième, chez le maître d'œuvre, chez le maître d'ouvrage ou l'AMO, sur les parties spécifiques à notre métier, c'est-à-dire prendre en considération comment envoyer une information pour qu'elle soit lisible sur un téléphone, comment faire en sorte que le projet marche, etc. Et bien aujourd'hui, il y a des gens qui ont découvert ce métier, qui l'intègrent. Alors, je ne dis pas qu'ils ont tout un service construit, mais c'est le début de la démarche. Ça démarre avec des stagiaires parce qu'ils veulent aller au-delà, créer un projet qui fera un vrai produit, pas attendre que les appels d'offres tombent. Et donc, la création d'emplois, elle est directe par rapport à ça. D'abord chez nous, parce que si on vend plus, on va recruter plus, mais aussi chez nos partenaires, parce que par effet de rebond, ça a cette vertu noble de pouvoir créer des nouveaux métiers.
Ouais. Merci aussi Frédéric. Je prendrai une question là-haut pour faire l'équilibre avec la salle. Allez-y, je vous en prie.
Je vais essayer de parler un peu fort. Aujourd'hui, nous parlons de social business, d'entrepreneuriat social. Vous avez parlé d'axe de développement. Est-ce que l'entrepreneuriat social peut être un axe de développement pour des entreprises capitalistiques innovantes?
Alors ça, c'est la question pour Bruno Bonnel, qui est passionné du sujet.
J'avais payé en fait pour qu'il le dise à la fin.
Ouais, ouais. Alors, une réponse courte, je sais qu'il a une obligation en termes de timing, donc il sera obligé d'être court.
Écoutez,
pour les autres aussi.
Encore une fois, comme on a passé, vous ne nous avez pas vu, mais on a passé une petite demi-heure dans les sous-sols, on a abordé cette question avec pas mal de passion. Moi, je reçois des coups de fil ou des emails de beaucoup de chefs, de jeunes entrepreneurs qui me disent, mais j'ai envie de faire une boîte, etc. Et souvent, il y a juste les 10 dernières années, j'entendais parce que je veux gagner de l'argent, je veux aller en bourse. Aujourd'hui, plus de 50% d'eux me parlent d'un mot que je ne connaissais pas qui s'appelle le social business. Je dis, c'est quoi le social business? Alors depuis, je me suis renseigné beaucoup et je crois que j'ai acquis une conviction profonde, c'est que les entreprises vont... L'entreprise, la structure de l'entreprise va intégrer de plus en plus cette dimension sociale et donc va véritablement se révolutionner. Donc là, il y a des zones d'innovation incroyables, à savoir ce que j'ai dit tout à l'heure, la répartition de la productivité, où va aller l'argent, comment il peut être réparti, comment il peut rentrer les problématiques d'éthique par rapport à l'écosystème dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire pas être simplement concentré sur une entreprise, ça se réduit à la radiographie de son profit, à son compte d'exploitation. Mais ça se juge aussi à l'aune de son compte sociétal. Alors, il ne faut pas se tromper de débat, il faut les deux. Il n'y a que les entreprises qui généreront du profit et des moyens, ce que j'appelle des marges de manœuvre d'expression, qui pourront avoir l'attention nécessaire à des projets sociétaux. Alors, c'est formalisé un petit peu en ce moment. Je sais qu'on est en train de travailler sur une entreprise qu'on va qualifier d'entreprise sociale. J'espère que ce mot... sera tellement banalisé qu'on dira entreprise tout court, parce que cet aspect social, sociétal de l'entreprise sera complètement intégré. Mais oui, c'est une bonne question, mais on n'a plus le temps là. On fera un débat là-dessus tous les deux.
Voilà. S'il y a d'autres questions, je vous propose de venir les poser en off s'il reste un peu de temps. Merci.